Alors, j'ai lu, parcouru un livre qui m'a extrêmement plu, quelque chose d'absolument original qui s'intitule Ces grands procès qui ont changé le monde. C'est une œuvre, un album documentaire signé Francesca Tropp. Bonjour, Madame Tropp.
Bonjour.
Alors, je vous ai présenté comme avocate, mais je vais vous présenter comme ex-avocate.
Merci.
Vous êtes une
Oui.
auteure, vous êtes une artiste également, et ce
Oui.
sont les éditions du Passage qui ont publié ce livre dans la collection Famille, ces grands procès qui ont changé le monde. Et je vous remercie d'être avec nous pour nous parler de ce bel album. Je me demandais, on dit que le droit mène à tout. On en a ici une preuve évidente. Racontez-nous les grandes lignes de votre vie professionnelle là, avant d'entrer dans le livre.
Alors, moi, depuis toujours, je me perçois comme une peintre. Et j'ai fait, tout au long de mon parcours scolaire, je faisais des illustrations, par exemple, l'album des finissants secondaires, le journal étudiant au cégep, et même à l'université aussi, je faisais des illustrations. Mais à 17 ans, 18 ans, à l'âge où on décide ce qu'on va faire dans la vie,
Ouais.
je ne me sentais pas la force morale de devenir artiste
Ah non.
et d'assumer ma créativité, de m'exposer au monde. Et je me suis dit, ben, moi, j'aime beaucoup lire, j'aime réfléchir, je m'intéresse aux gens, donc je vais aller en droit. Parce que, justement, ça mène à tout. Et j'avais lu que Cézanne était avocat.
Ah, le
Et que
peintre
Matisse
Cézanne.
avait... Oui. Il était... quand il est parti pratiquer le droit à Paris, son père le finançait alors qu'en fait, il s'adonnait à la peinture plutôt que de pratiquer son métier. Bref, c'était mon idole.
Là, vous parlez de
Et
Cézanne ou de Matisse? OK.
de Cézanne, oui. Et Matisse aussi, brièvement, était clerc de notaire. Donc... J'ai été suivre cette formation, puis finalement, quand je suis devenue avocate, j'ai réalisé que c'est un métier qui me plaisait parce que c'est une relation d'aide. On aide les gens à résoudre des problèmes et ça me plaisait. Et je peignais dans mes temps libres. Et puis finalement, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et là, j'arrivais plus à intégrer la peinture dans ma vie et j'ai décidé que c'est le droit qui allait partir.
Être
Et
sacrifié d'une certaine façon, mais
oui,
pas tant que ça.
c'est... Mais justement, ma grande surprise, quand j'ai quitté le droit, c'était pas pour le peindre, et j'ai été étonnée qu'il revienne à travers mon art, après quelques années. J'ai d'abord eu l'idée de faire une série sur les avocats, mais vus de l'intérieur. Et en peignant l'atmosphère austère,
Des palais de
et
justice, des salles
voilà.
de procès ou.
Oui, exactement. Et en faisant ces tableaux, j'ai eu envie de me questionner sur les origines des symboles que portent les avocats et les juges, pourquoi ils avaient l'air de prêtres ou
Oui.
de religieuses. Et en faisant des recherches, j'ai réalisé qu'en fait, les premiers avocats en France étaient des prêtres et que la toge que les Français portent aujourd'hui est un descendant direct de la soutane des prêtres. Et donc, j'ai poursuivi mes recherches et j'ai publié un premier livre qui
Esprit
s'appelle
juridique, mythe et symbole du
Exactement.
monde juridique. Est-ce qu'il était un peu dans la lignée du livre que vous nous proposez aujourd'hui? Est-ce qu'il était aussi illustré?
Oui, il est illustré par mes tableaux et commenté par des textes. C'est moins engagé, je dirais. C'est plus la petite histoire. La
Oui.
petite histoire des symboles, c'est léger. C'est une documentation sérieuse, mais c'est un livre, c'est un beau livre de table qui est illustré par mes tableaux. Et j'ai été invitée, après avoir fait ce livre, à donner une conférence sur le sujet. Et dans l'auditoire, quelqu'un m'a demandé si je connaissais un livre qui s'appelle The Fall of the Priests and the Rise of the Lawyers. Donc, la chute des prêtres et l'ascension des avocats. J'ai acheté le livre et j'ai réalisé que j'avais là un thème pour une prochaine série qui serait les grands procès qui ont marqué l'évolution des règles morales dans la société, là où les avocats et les juges ont pris le relais des
Des
prêtres
religieux,
pour
oui.
des religieux pour énoncer les règles morales. Alors l'auteur part du principe que les grandes religions ont cessé de renouveler leurs mythes il y a plus de 1000 ans. avec la Bible, la Torah ou le Coran, et que depuis, ce sont les cours de justice qui ont dû se mettre à définir qu'est-ce qui était juste et qui pouvait avoir des droits. Et... Alors, c'est pour faire une suite à l'histoire religieuse que j'ai commencé à peindre ces tableaux.
Ah oui, très beau projet. Et donc, avec vos livres, vous avez trouvé une façon d'unir vos intérêts, vos talents, vos forces. Et
oui.
Vous parlez donc...
Oui. D'avoir pu faire le pont entre mon passé et mon présent.
Oui, et votre futur, j'imagine, je l'espère pour vous. Comment vous avez choisi les 24 grands procès qui ont changé le monde, parce qu'il doit en avoir plus que 24, là?
Oui, en effet. Et ma première sélection, il y en avait une cinquantaine. Et l'éditeur est intervenu pour me dire non, 50.
On fera un deuxième tome, peut-être?
Ou pas, mais il faut que tu choisisses, ouais. Parce que ça rend service à personne. Mm-hmm. Alors, ils m'ont aidé à faire un choix, mais ça s'est fait en deux parties. Les premiers tableaux, c'était des coups de cœur. C'était ceux qui se rapportent à mon histoire personnelle. J'ai fait Nuremberg et Dreyfus, qui traitent de l'antisémitisme et de la guerre, parce que mon père, qui a vécu en Belgique au début du siècle dernier, la quasi-totalité de sa famille qui a été exterminée pendant l'Holocauste. Je me suis aussi intéressée à la question du troisième genre, des trans en Inde, parce que j'ai un de mes enfants qui est trans. Et donc, j'ai choisi des procès comme ça qui étaient proches de moi.
Oui.
Et c'est quand j'ai réalisé qu'en fait, j'étais en train de peindre une histoire des droits de la personne, que j'ai changé mon focus et j'ai cherché à représenter chaque grande question des droits de la personne, donc le droit des femmes, le droit des enfants, le droit des personnes homosexuelles, etc.
Ça a commencé par des choix plus personnels, mais qui sont tout de même universels.
Oui. Absolument.
Et vous voyagez à travers le temps là, et à travers le monde également, en nous proposant ces procès-là. Le livre compte trois sections. D'où viennent les règles? Qu'est-ce qui est juste? Des droits pour qui?
Oui, et je trouvais très important de commencer avec les origines, remettre en question, questionner pourquoi on juge que quelque chose est juste et bon. Pourquoi
ouais.
C'était différent avant? Et quand on remonte dans le temps, à quel moment est-ce que ça a cessé d'être bon? Comme le mariage homosexuel, par exemple, c'était quelque chose qui se pratiquait il y a 2000 ans. Et pourquoi on jugeait il y a encore 10 ans que c'était impensable? Eh bien, c'est parce qu'entre-temps, il y a l'Église catholique qui est intervenue. Et c'est important de replacer des repères historiques pour voir que la pensée n'évolue pas de façon linéaire. Il y a des cycles, il y a des boucles, et elle s'explique par d'autres phénomènes.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de procès? Bien, vous avez déjà commencé, là, mais parce que ça commence avec Adam et Ève et ça se termine avec Cécilia, le chimpanzé.
Oui.
À travers vous parlez de Socrate, Galilée, des histoires qu'on connaît un peu plus. Mais vous avez le talent de raconter les choses, c'est très imagé. Il y a toujours une partie histoire et une partie réflexion aussi. Moi, je dirais que c'est un livre parfait là, pour les étudiants secondaires et même au cégep, mais pour tout le monde, là. Mais c'est un livre qui devrait être proposé dans les écoles.
Oh, vous me faites plaisir!
Bien, tant mieux! Mais c'est sincère.
Je tenais absolument... Alors, quand j'ai eu l'idée au début de faire un livre, je n'avais pas de public précis en tête. C'est mon éditeur qui m'a dit, écoute, nous, on a en tête un public jeune. Donc, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit lisible. Mm-hmm. Et je me dis, voilà, un public qui a une connaissance de l'histoire, mais je veux quand même replacer chaque procès dans un contexte historique. Les sorcières de Salem, ça s'est passé à quel moment dans l'histoire? Justement l'affaire Dreyfus, Nuremberg, Galilée, comment ils se situent un après l'autre, quel droit est arrivé en premier, lesquels ont suivi, c'est extrêmement important pour moi. Maintenant, j'avais une limite de 700 mots par procès, donc je devais être extrêmement économe dans les mots et exprimer.
Il y avait des balises, là, mais j'imagine que, oui, ça peut être un obstacle, mais ça peut aussi être une aide d'une certaine façon.
On ne crée bien qu'avec des limites.
Oui, c'est vrai. Hein?
Dans tout, dans la peinture
oui.
aussi.
On ne vit bien aussi qu'avec des limites, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Et il y a des croquis et il y a des tableaux. Les tableaux qui sont à la toute fin et vraiment, là aussi, je vais vous lancer des fleurs. Là. Vous avez énormément de talent. Je me demandais si ces œuvres-là vont être un jour exposées dans une galerie d'art.
J'aurais tellement aimé pouvoir vous répondre. Oui, en fait, la semaine prochaine, il y a une exposition, mais à cause de la COVID, toutes les expositions sont en suspens.
Ah ben oui.
C'est un projet que j'ai. Je fais des démarches auprès de différentes maisons de la culture pour voir si les œuvres ne pourraient pas trouver une place là-bas. Mm-hmm.
C'est vrai qu'à Montréal, on est en zone rouge aussi, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, les musées sont toujours ouverts.
Oui, oui. Alors.
Mais il y a une démarche, là. Vous aimeriez exposer vos œuvres.
Oui. Oui, j'aimerais exposer mes œuvres. En ce moment, elles sont exposées sur mon site web, francescaprop.com. Les tableaux sont au complet dans le site, alors que le livre, souvent, a dû tronquer les œuvres parce qu'elles n'avaient pas le bon format. Mm-hmm. Et c'est de ma faute. j'ai peint le format que j'avais envie de peindre et c'est ce que ça a donné. Mais
les peintures ont vraiment un lien.
Oui.
Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Est-ce que vous voulez terminer?
Non, je vous laisse aller.
OK. Mais les œuvres qu'on trouve dans le livre ont un lien avec les histoires de procès.
Oui. Chaque œuvre a été faite pendant la recherche. Moi, j'ai toujours, depuis toute petite, je réfléchis avec des images. C'est comme ça que mon cerveau a été structuré. Donc, pour comprendre une idée, je fais des croquis où j'essaie de mettre ensemble tous les éléments importants. Il y en a qui ont besoin d'écrire, il y en a qui font des graphiques. Moi, je fais des dessins. Et les croquis qu'on voit, c'est une sélection qui a été faite parmi les dizaines de croquis que je faisais pour chaque tableau tout au long de la recherche, quand je faisais la lecture du procès, mais aussi de commentaires qui ont été faits, des essais, des pièces de théâtre ou des romans qui ont été écrits autour de Jeanne d'Arc, de Dreyfus. La plupart des procès ont déjà été traités de d'autres façons par des artistes. Et donc, tout au long de cette recherche, je gribouillais. Je gribouillais des tout petits dessins. C'est 10 cm par 15 cm, mm-hmm. C'est tout petit. Et l'éditeur m'a dit, mais pourquoi on ne les met pas dans le livre? On trouve ça dynamique. Et j'ai été surprise parce que pour moi, ça, c'est ce qu'elle a à la poubelle. Alors, ils m'ont fait réaliser qu'il y avait une valeur ajoutée, en fait, à montrer le processus. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer le croquis avec le tableau final, qui parfois est semblable et parfois très différent parce que l'idée a continué à évoluer pendant que je faisais le tableau.
Et ça fait penser aussi aux croquis là, qu'on fait dans les salles de cours.
Ah oui, 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 oui.
Ouais. Et puis vos tableaux sont magnifiques. Moi, ça m'a fait penser, j'ai lu en quelque part la comparaison avec, je crois que c'est Chagall, Marc Chagall.
Oui.
Et c'est
oui.
vrai, hein, c'est vrai. Puis il y a aussi du Edouard Munch, mais il y a évidemment du Francesca Tropp.
C'est 100% Francesca Tropp.
Ouais.
Mais chaque artiste s'inscrit dans un courant artistique. On n'est pas tout seul. Je suis une figurative symboliste comme Munch et Chagall l'ont été avant moi.
Mm-hmm. Bien, toutes mes félicitations pour ce livre, ces grands procès qui ont changé le monde et qui nous changent aussi un peu, mais il y a des histoires qui donnent froid dans le dos. On a l'impression d'être dans un film, quelquefois un film d'horreur. On passe par toutes sortes d'émotions en lisant ces grands procès-là. Merci pour cet ouvrage. Je rappelle que c'est publié aux éditions du Passage et je parlais avec l'auteur et peintre et ex-avocate Francesca Tropp. Merci, Madame Tropp.
Merci à vous. Bonne journée.
Vous aussi.